France Culture.
Bonsoir Yama Bass, merci de nous accueillir une fois de plus chez vous, dans le salon de votre demeure parisienne, pour ce troisième entretien à voix nue de la semaine. Alors hier soir, nous nous sommes quittés sur votre décision de partir, de vivre en exil, un départ intimement lié à des raisons personnelles et symboliques, dites-vous. Alors c'est quoi ces raisons personnelles et symboliques ?
Bonsoir déjà. C'est drôle parce que quand je parle de ce départ, j'ai l'impression qu'il est composé de beaucoup de choses et qui me ramène, toutes ces choses-là me ramènent à dire j'avais besoin d'aller respirer de l'air frais. Je suffoquais. Après, on peut rentrer dans les détails, mais l'idée vraiment de... est toujours contrainte de faire de l'art pour exprimer les difficultés, travailler pour toujours raconter ce qui va pas, vivre dans une société qui quand même nous restreint les mouvements et l'expression. D'un côté, la politique avec laquelle on n'est pas d'accord, et qu'on ne peut même pas exprimer ce que c'est. Moi, quand je travaillais au théâtre El Hakawati, comme on l'a dit dans l'émission précédente, souvent, c'était un lieu où on devait exister avec toutes les troupes palestiniennes qui existaient de l'époque. Donc, pour pouvoir faire exister le théâtre, on le louait de temps en temps. Et quand on loue un lieu, on n'est pas censé de demander à la personne ou à la société qui loue quelle est leur tendance politique, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement de la salle. On loue la salle, on loue la salle. Et souvent, quand la police israélienne savait qu'il y a peut-être une activité à l'intérieur qui ne leur plaisait pas ou qui appartenait peut-être à quelconque groupe politique, ils venaient la veille et ils fermaient le théâtre 24 heures sur 24. On trouvait à l'extérieur et interdiction de rentrer. À part le nombre de fois qu'on vous appelle pour essayer de tirer de l'info. Donc, il y a un moment, même faire de l'art pour dire les difficultés tout est devenu très lourd, en fait. Voilà. J'avais aussi une histoire personnelle, d'un choix personnel que j'avais fait, d'un vécu avec un homme qui aussi était un combat. Donc, il y a un moment, j'ai dit au revoir. Parce que il faut que j'aille. Sinon, j'allais plus trouver ma personne, ni mes raisons de continuer à crier et à rêver. Donc, j'avais vraiment besoin d'aller, comme je le dis, respirer de l'air frais ailleurs. Et d'ailleurs, la première fois que j'avais fait un voyage, j'arrive à Londres, je me souviens, et comme c'est la première fois que je sors vraiment d'Israël ou de la Palestine à l'époque, j'arrive à Londres, absence de soldats. J'avais l'impression qu'il y a une réalité autre qui peut exister, hors cet état tellement mélitaire que je me suis dit quand même, il y a autre chose, il y a une autre vie. J'étais jeune, hein, j'avais 18 ans à l'époque, donc un peu plus, pardon, 22 ans. Cet étouffement, en fait, m'a poussé vraiment à aller. D'ailleurs, j'ai jamais pensé que j'allais partir à jamais. Je pensais pas du tout vraiment. Je me suis dit, je pars un an, deux ans. J'avais envie de m'inscrire dans une école de cirque à Londres à l'époque. Mais ma vie a tourné différemment et j'étais restée à Londres pendant un moment et j'ai retravaillé avec Théâtre El Hakawati qui était en tournée en Europe alors que je les avais quittés depuis deux ans auparavant. Et là, j'ai rencontré un homme et j'étais venue vivre à Paris en pensant pareil qu'en fait ça sera pour une période très courte et que je me réinstallerai de nouveau en Palestine. Mais la vie a fait que j'étais restée à Paris.
Alors vous dites, vous êtes partie parce que tout venait une montagne de problèmes. Il y en a une autre, hein. on va arrêter de teaser l'histoire, c'est avec votre père. Votre père, c'est un peu compliqué de le quitter. Vous êtes obligé de le baratiner un petit peu, en quelque sorte. Comment ça se passe?
Mais je crois que j'étais obligée de baratiner plus auparavant aussi avec mon père, parce que j'ai vu que la difficulté pour mon père était d'accepter les choses jusqu'à une certaine limite. Et moi, pour moi, si on va dans un sens dans la vie, on n'a pas de limite. Donc, je l'ai invité toujours à casser ses limites. Et en fait, à un moment... Moi, je réalisais pas à l'époque, mais à un moment, effectivement, il pouvait pas. Et mais j'avais pas envie d'entendre ça. Donc, je me dis, un homme intelligent comme lui, libre intérieurement comme il est, il doit pouvoir m'accompagner et aller dans mon sens jusqu'au bout. Et du coup, quand la limite de mon père est arrivée, toujours, c'était le début d'un autre conflit. Donc, à partir de là, j'essayais d'être très sincère au départ et dire la vérité. Aussi dure qu'elle peut l'être, pour lui comme pour moi. Et à un moment, ok, si c'est pas le cas, je vais baratiner. Ok, je vais te promettre que oui, je vais te dire que oui, je vais te dire oui. Mais par contre, ça va me permettre de faire ce que je veux faire, et toi, ça va te permettre de me suivre. Et on se retrouvera, et on reparlera, à la limite. Parce que c'est pas, je mens pas pour mentir. Je mens pour pouvoir, arriver à continuer, en fait, à faire ce que j'avais envie de faire. Et mais en plus, quand je dis mentir et baratiner, c'est des petites choses, hein, c'est pas... quand je suis partie la première fois, c'est difficile d'expliquer pourquoi on part prendre l'air. Ça veut dire quoi, prendre l'air? Pourquoi tu prends pas l'air à côté? Pourquoi tu prends pas l'air? Va à Haïfa, va à la mer, prends l'air là-bas. Mais du coup... toutes ces choses-là qui étaient difficiles de concevoir pour mon père, je les ai amenées petit à petit, pas par la ruse, parce que c'est pas le mot juste en fait, mais vraiment par un moyen un peu détourné, et plus tard, on s'est retrouvés. Toujours. Jusqu'à une nouvelle ordre, en fait. Et à partir de là, ça a été un combat comme ça, sur des années et des années, jusqu'au moment où vraiment j'ai disparu, en fait, disparu complètement, parce que quand je suis venue ici et que j'ai compris que j'ai fait des choix qui peut-être peuvent vraiment beaucoup heurter mon père davantage et que j'avais plus envie de lui faire mal. Et quand je dis faire mal à mon père, c'est faire mal à ma mère aussi, faire mal à chaque membre de ma famille, parce que même ceux qui sont d'accord avec moi et qui voient un parcours fascinant pour eux, le prix vraiment pour eux est très lourd à payer. Et que, alors, est-ce qu'il fallait être égoïste pour pouvoir continuer? Moi, j'ai pas l'impression que j'étais égoïste, parce que vraiment j'ai avancé avec beaucoup d'amour. Et je le dis aujourd'hui, sans mon père, je serais pas là aujourd'hui. Et plus que ma mère. Vraiment, parce que ma mère était d'accord avec beaucoup de choses. Mais mon père, qui a fait un chemin énorme aussi, ça a été pour lui et moi un parcours atypique, en fait, dans ces conditions-là. Et à l'époque aussi, parce que beaucoup de femmes à l'époque, peu de femmes d'ailleurs, ont osé peut-être ce que j'ai osé. Je le dis sincèrement, sans prétention aucune. Il a fallu vraiment, vraiment, presque fermer les yeux et avancer.
D'ailleurs, il y a
des
une
fois
scène...
avec une déchirure, mais terrible, avec une peine énorme. Parce qu'il y a des nuits, je dormais pas, parce que ça fait mal, quoi. Ça fait mal de faire mal. Et l'idée, c'était pas de faire mal, mais l'idée, c'était d'avancer. Sinon, j'aurais pas pu, quoi.
D'ailleurs, il y a une scène dans le film de votre fille, Lina Swalem, qui s'appelle Bye Bye Tibériade, film documentaire dans lequel elle revisite justement les femmes de votre famille. On a le sentiment que votre grand-mère, votre mère, vos tantes, elles ont un peu fait la même chose que vous. Elles se sont battues contre ces hommes dans cette société patriarcale où il fallait toujours louvoyer parce que c'était l'homme qui avait le pouvoir.
Oui, relativement parlant, on peut vraiment dire les choses comme ça. Or que aussi leur combat était pendant une guerre réelle et pendant un exode réel. Et c'est ça aussi que je crois a renforcé leur manière de vouloir arriver à faire ce qu'ils voulaient faire, parce qu'il y avait un combat très important de tenir. Ma grand-mère, elle devait tenir sa famille de 9 enfants après la mort de son mari suite à la perte de ses terres. et de sa maison à Tébériade. Ma mère, elle n'a pas pu finir son école d'institutrice parce que la guerre de 47-48 a carrément fermé toute possibilité de continuer d'étudier. Et bah, le départ à l'exode a privé ma mère de pouvoir finir ses études. Et du coup, son combat était dans ce contexte politique de pouvoir arriver à faire ce qu'elle aime au plus pour pouvoir être une éducatrice d'une génération autre. Mon combat à moi est différent parce que déjà socialement parlant, je suis des années après tout ça et le combat social aussi avait pris une autre façon et une autre forme par rapport à la situation de la femme et l'homme dans ma société qui était quelque chose qu'on commençait à verbaliser. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais jeune et que j'avais des activités politiques pour pouvoir changer la société aussi, politique dans le sens pas politique contre l'État, mais politique aussi dans la sociale, politico-sociale ou sociopolitique. Ces combats étaient aussi des fois pour tracer un avenir différent pour le vécu entre l'homme et la femme dans mon société. Et en fait, on avait l'impression que, et c'est un discours que j'ai tenu avec mon père aussi, que à cause de la politique, à cause de la situation politique et le conflit, on mettait l'histoire de la femme de côté comme si on n'avait pas le temps de s'en occuper. Et pour moi, c'était un truc qui va de soi, avec. Donc on peut pas séparer. Pourquoi l'homme est plus important que moi dans le conflit politique? Parce que pour l'instant, je dois être la femme derrière. Donc tout ça, ça a été un chamboulement énorme dans la tête de mon père et notamment dans ma vie de jeune qui avait envie que vraiment les choses se trouvent différemment. Regardez, par exemple, je me souviens, justement pour être active à un moment dans mon village, on a décidé de faire autrement. Ça veut dire le nettoyage de village, il faut se faire par nous. Donc Et il y avait des jeunes gens comme ça qui voulaient prendre en charge ces choses-là. Et moi, toute activité qui peut relever vraiment du travail dans la communauté et améliorer la vie autour, ça a été quelque chose qui m'a invité directement à y aller. Donc je décide d'y aller. Et effectivement, comme je suis jeune encore mineure, je demande à mon père. Il n'a jamais dit non. Pour ça, et il a dit, ok, genre, tu peux y aller. Mais par contre, si j'avais envie d'aller, je ne sais pas, boire un verre ou aller avec les copains, c'était non, parce que socialement, ça se fait pas. Donc, il y avait aussi cette notion que mon père, il avait toujours cru, peut-être, à l'intérieur de lui, que même en tant que femme, je peux être effective dans ma société, mais dans un cadre social, dans un cadre traditionnel, dans lequel je devais rester. Et moi, ce cadre-là, c'est celui que je voulais casser aux yeux de mon père. Il contenait trop de restrictions qui ne permettaient pas d'aller jusqu'au bout des choses.
Alors, vous partez. Vous vous souvenez du jour du départ?
Oui. Le jour même, en fait, parce que comme je disais, vraiment, je partais pas pour toujours. Je partais pour revenir. Donc, le jour même, c'était au revoir, mais au revoir en sachant que c'est un départ qui n'était pas béni. J'avais envie vraiment que mon père me dise « Vas-y, ma fille, va voir ton avenir et voilà, je te bénis ». Le départ lui-même, en fait, pratiquement, tu prends ta valise et tu pars, quoi. Donc ça, c'est l'arrivée là-bas et c'est toutes les pensées qui commencent à prendre place et les sentiments peut-être d'une culpabilité quelconque, que d'ailleurs j'ai essayé vraiment très vite à dépasser, parce que j'avais pas envie de vivre dans la culpabilité. J'ai l'impression que la culpabilité allait m'enchaîner de nouveau et allait pas me permettre de continuer. Donc, avec beaucoup de peine, je dirais, vraiment beaucoup de peine, mais avec une lumière blanche toujours qui était là et qui m'invitait à avancer.
Il y avait un homme dans l'histoire aussi.
Voilà. Oui, mais cet homme n'était pas béni non plus. Alors j'ai forcé les choses, et ça s'est fait comme j'aurais voulu, en quelque sorte, chez mon père, dans sa maison, parce que je ne me voyais pas faire quelque chose de mal à quiconque. C'est un choix parmi d'autres dans ma vie, et que le choix était tellement difficile, mais mon père a fini par l'accepter, et ce départ-là, et en fait, a forcé trop les choses à un moment où vraiment, mon père, c'est juste, vas-y, lâche-moi, en fait, laisse-moi tranquille, je veux plus entendre parler de toi, quoi, et des problèmes.
Alors, vous arrivez à Londres, vous vous présentez comment? Comme actrice palestinienne, comme palestinienne, comme israélo-arabe, comme quoi? Comment on se définit dans l'exil?
Je crois que c'est une forme de liberté de pouvoir dire oui, je suis palestinienne. Pour moi, c'est vraiment l'élan de cette... vers cette liberté de me définir comme je l'entends, comme je le sens, comme je le veux, qui était très libérateur en quelque sorte.
Alors cet exil, vous le vivez avec votre langue, la langue arabe. Alors c'est quoi cette langue arabe, cette langue palestinienne, avec plein d'accents différents, parce que à l'origine, toutes les personnes qui habitent dans cette région du monde sont tous des Arabes, ils parlent tous la même langue, ils partagent la même culture, la même langue, la même musique. C'est une langue qui possède aussi ses Belges, ses Suisses, ses Marseillais, avec ses Ch'tis, avec tous ces accents différents. Vous arrivez avec quelle langue, vous?
Alors, j'arrive avec le dialecte palestinien qui vient du nord de la Palestine, qui est assez semblable d'ailleurs en quelque sorte à l'accent libanais, mais j'arrive aussi avec la littérature, donc la langue littéraire, l'arabe fosha, ce qu'on appelle l'arabe qu'on écrit et qu'on lit. Et le dialecte palestinien n'avait de sens à ce moment-là que quand je parle avec les Palestiniens. Et souvent, je me suis trouvée, par exemple, avec certains Soudanais en Angleterre ou des Arabes qui venaient d'autres pays et que j'ai senti qu'il faut modifier quelque chose dans ma façon de parler pour qu'on puisse se comprendre. Et donc, on a tout de suite, en fait, recours à la langue littéraire. Parce que ça a unifié plutôt le monde arabe et les gens qui parlent arabe. Mais l'accent palestinien, lui-même, même à l'intérieur de la Palestine, il varie. Il varie de Jérusalem, il varie entre Jérusalem et Hébron. D'ailleurs, il y a aussi une drôlerie par rapport à l'accent, parce qu'on traite presque les gens de Khalil, Hébron, comme presque les Belges pour la France. Donc souvent, on se moque de leur accent.
Oui, on se moque beaucoup des Hébronites.
Voilà. Et pour les gens du Nord, en fait, souvent, quand on parle, c'était une musicalité que tout le monde aimait. J'avais l'impression que les gens disaient... Ah, mais t'es du nord de la Palestine. Ah, mais c'est beau comme vous parlez. Donc, il y avait quelque chose qui vraiment me rendait fière, en plus de trimballer et de transporter cette langue un peu avec moi à travers mes voyages. Donc, et l'arabe littéraire, c'était quelque chose de très important parce qu'à l'époque, effectivement, vraiment, mes ressources, j'ai envie de dire, littéraires étaient, ils venaient vraiment beaucoup de la langue arabe, même si je maîtrisais très bien l'anglais à l'époque et je lisais beaucoup en anglais. Il y avait cette librairie à Londres, Saqi, à laquelle je me réfugiais tout le temps pour pouvoir acheter des livres que peut-être j'avais jamais accès à l'intérieur d'Israël ou à Jérusalem ou à Ramallah. Et que d'un seul coup, j'avais un accès vers un arabe qui conclut, en fait, ou inclut plus d'identité arabe à l'intérieur. Et ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup plu, en fait. Londres m'a beaucoup apporté de ce côté-là. C'est le fait qu'on a accès à une vaste littérature. Pourquoi ça n'arrivait pas? Est-ce qu'il n'est pas pour des raisons politiques ou autres, ou commerciales, tout court? Ça, je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui était très important pour moi. J'ai acheté plein de livres là-bas. J'allais vraiment, je mettais sur le canapé là-bas, je me souviens très bien, en fait, et je lisais, parce que c'est presque, en fait, c'est une invitation, comme si j'étais assoiffée de aussi cette ouverture vers un monde qui m'était interdit.
Alors vous avez incarné plusieurs sortes de femmes, des Algériennes, des Syriennes, des Druzes, des Égyptiennes.
C'est des accents vraiment différents.
C'est des accents différents que vous avez dû apprendre. Ouais. Je pense à ce film, à mon âge, je me cache encore pour fumer, qui se passe dans un hammam à Alger, pendant la période, ce qu'on appelle les années de plomb. Mm. Là, vous avez dû réapprendre à parler arabe, comme on le parle dans, à Alger.
Exactement. Vraiment, il a fallu que je parle l'accent algérien, mais celui-là est arrivé un peu plus tard dans ma carrière. J'avais déjà en fait travaillé sur pas mal d'accents avant, à mon âge, je me cache encore pour fumer, pour pouvoir interpréter des rôles des femmes du monde arabe un peu différemment. Donc, quand c'est l'accent libanais, c'est facile, plus facile. Quand c'est le syrien, le jordanien. C'est plus simple, mais dès qu'on arrive en Afrique du Nord, ça la chose se complique en fait. J'avais l'impression que aussi le mélange de l'arabe qui leur restait est un mélange qui n'avait rien à voir avec l'arabe de Moyen-Orient, qui était plutôt mélangé avec quelques histoires de la période haussmannienne, peut-être de la période anglaise, peut-être de la période française au Liban, les Turcs bien sûr, ça on l'a dit, mais l'Afrique du Nord a été vraiment nourrie par autre chose complètement. Et l'influence du français aussi, que je ne maîtrisais pas à l'époque, en arrivant en France, était aussi une difficulté supplémentaire pour comprendre l'arabe dialectal des pays comme le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Donc je démarre avec, en 98, avec un film marocain, Ali Rabia et les autres, ça s'appelle. Et ben là, c'était le casse-tête total. Mais vraiment, c'était difficile parce qu'en plus, je crois que on n'a pas réalisé que ça peut être si difficile que ça. Donc, il a fallu vraiment que je travaille, mais le temps de prépa n'était pas assez. Donc, je crois que on m'a doublé dans ce film-là. Et depuis, je me suis sentie presque en échec. En fait, et du coup, je me suis dit, il faut que j'arrive. C'est pas possible, en fait. Si je suis actrice, il faut que j'arrive. Donc, il me faut le temps nécessaire pour préparer. Donc, arrive Satin Rouge de Raja Amari en 2001. Et là, avec Raja, on a pris le temps presque 2 mois en amont pour travailler l'accent avec un coach que j'ai démarré à Paris avant d'arriver à Tunis. Et après, je suis arrivée 3 semaines avant le tournage pour pouvoir travailler sur l'accent tunisien. Donc, à partir de là, je crois que vraiment, j'ai commencé à mieux maîtriser cet exercice de travailler des accents en langue arabe tellement différente pour pouvoir arriver à être authentique par rapport au personnage que je joue. Après est arrivé l'Algérien et de nouveau le Marocain. Et quand, à mon âge, et je me cache encore, est arrivé, j'avais demandé à la réalisatrice de m'enregistrer tous les dialogues. Et c'est avec sa voix et avec son accent que je travaillais. Et en fait, maintenant, c'est ce que je fais. Quand j'ai un accent, je demande à ce qu'on m'enregistre le... Sauf le Libanais. Le Libanais, j'ai plus de simplicité, en fait, avec un coach seulement. J'ai fait moi-même un peu des symboles d'écriture pour savoir qu'est-ce que je fais avec les voyelles et ça devient plus simple.
Et puis, il y a eu la fiancée syrienne, où là, il s'agit d'une femme druze. Alors, c'est un autre langage, une autre musicalité, une autre langue.
Exactement. C'est de l'arabe, mais c'est de l'arabe des druzes, qui est un arabe spécial avec... Là, il y avait l'accent syrien, puisqu'on parle d'une histoire qui se passait dans le Golan annexé par Israël. Et le personnage que je devais jouer, de toute façon, de cette femme, je devais travailler son accent à elle. Il n'est pas aussi difficile, c'est différent, certes, mais il n'est pas aussi difficile que vraiment les accents nord-africains.
Avant de parler de cette carrière internationale que nous aborderons demain, je reviens à ce que vous avez fait, tous ces films où, en toile de fond, il y a votre propre histoire, c'est-à-dire l'histoire des Palestiniens, l'histoire de la Nakba, l'histoire de l'occupation. C'est quelque chose auquel on ne peut jamais échapper. La Nakba, c'est pas une date, c'est une ère, c'est un... qui se poursuit encore aujourd'hui, qui est toujours présente, omniprésente. Vous avez tourné avec des réalisateurs palestiniens, je pense aux frères Nasser, à Tarzan et à Arab Nasser, et avec bien d'autres. Il y a toujours cette histoire. On peut pas. C'est le sparadrap sur le nez du capitaine Haddock.
Je crois que c'est plutôt un héritage, en fait. Après, chacun l'imagine ou le trimballe comme il veut. Pour moi, c'est, comme je disais tout à l'heure, ou dans un autre épisode, c'est une valise, en fait. C'est une valise qui voyage, une valise de voyage. C'est une valise qui voyage avec moi. Donc, effectivement, si on parle de la Nakba, donc on parle d'un héritage, on parle d'une mémoire, mais on parle aussi d'un système psychique, mental et émotionnel qui fait de moi l'actrice que je suis. Et du coup, je ne sais pas si j'ai pas envie non plus vraiment de dire que c'est la Palestine qui fait que j'avance dans ce métier, mais c'est tout ce que je fais dans mon jeu ou dans ma façon d'être est parsemé par tout le système émotionnel que j'ai instauré à travers les années par rapport à qui je suis, comment je suis née, comment j'ai grandi et jusqu'où je vais y aller. En fait, j'ai l'impression que c'est, on se sépare pas de ça. Je ne sais pas comment on peut demander à un acteur de travailler en allant trouver l'émotion à 2 kilomètres de lui. Donc, je crois que chaque acteur travaille avec son système, avec ce qu'il a au ventre. Et donc, moi, ce que j'ai au ventre, ce que j'ai au cœur, ce que j'ai partout, c'est mon passé, c'est mon histoire, c'est mon héritage. Et la Nakba en fait partie. Donc, être palestinienne, pour moi, c'est être qui je suis aujourd'hui. Mais pas seulement, parce qu'il faut dire aussi que la palestinienne que je suis, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui a beaucoup amassé sur le chemin. Et tout ça a créé qui je suis aujourd'hui. Donc il y a 2 ans, je n'étais pas qui je suis aujourd'hui. Quand j'avais 20 ans, je ne suis pas qui je suis aujourd'hui. Mais tout ça fait que je continue à tracer et je continue à tisser, en fait, ces personnages avec toutes ces choses que j'ai de mon passé, mais avec tout ce que j'ai amassé sur mon chemin, avec ce voyage que j'avais fait.
Alors, un long chemin, je le disais, une carrière mondiale, hein, vous jouez avec Patrice Chéreau, Jean Becker, vous travaillez avec Yousri Nasrallah, Amos Gitaï, Erhan Riklis, mais aussi avec Spielberg, Ridley Scott, mais tout ça, c'est encore une autre histoire, Yam Abbas, que vous allez nous raconter demain, lors de notre 4e entretien nocturne et à voix nue. En attendant, je vous remercie une fois de plus, hein, de nous accueillir chez vous dans votre salon. Je vous souhaite une agréable soirée à l'écoute des programmes de France Culture, évidemment.
Merci.
C'était À Voix Nue, Alain Lefkovitch avec Yam Abbas, chargé de programme Daphné Abgral, à la prise de son Thomas Robin, à la réalisation Guillaume Baldi, une série que vous pouvez bien évidemment réécouter sur le site et l'application Radio France.